RMC entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, 2022 c'est terminé, place à 2023. Sera-t-elle une grande année pour le rugby français? Car personne ne l'ignore, un petit événement s'organise en septembre-octobre chez nous. Mais oui, le rugby tricolore sera au centre de la planète sport. La Coupe du Monde débarque à partir du 8 septembre avec un énorme France-Nouvelle-Zélande en ouverture. Et on espère qu'elle se terminera de manière heureuse le 28 octobre au Stade de France pour la finale. Mais jusque-là, nous aurons une montée en puissance de tournoi destination, bien sûr, avec des matchs relevés pour le 15 de France, mais aussi notre bon vieux top 14 et la Champions Cup, ces matchs qui révéleront ou confirmeront des équipes, des joueurs qui marqueront cette année. Alors les poteaux, qu'attendez-vous de 2023 chez les Bleus? Quels matchs vous feront saliver? Quels joueurs auront les clés du succès ou pourront vous surprendre ou surprendre du monde? En championnat, le Stade Toulousain va-t-il rouler sur tout le monde? Quelle équipe est capable de se mettre sur son chemin? Qui sera hors de course? Quel OVNI va faire lever les foules? Et en Coupe d'Europe, face aux géants Leinster, Saracens, Exeter, un club français va-t-il s'imposer comme La Rochelle l'a fait l'an dernier? On va mettre tout sur la table et tenter de vous faire réfléchir à tout ça, un peu comme lors des conversations de famille qu'on a eues à Noël avec les amis ou au premier de l'an. Bon, on n'a pas de verre de vin rouge pour accompagner tout ça en convivialité, mais après les deux semaines que l'on vient de vivre, on va plutôt se mettre à l'herbage. Est-ce que Denis Charvet va vivre une semaine de soupe de légumes pour assainir son corps?
Oui, si tu veux.
En a-t-il besoin?
Non, je suis en forme, ça va. Bonjour, bonne année à tous et toutes et qui nous écoutent tout au long de l'année.
Effectivement.
Voilà, et puis en espérant que cette fin d'année, on est
un grand bonheur.
La coupe sur la maison,
un
reviens à la maison.
Julien Landry, a-t-il un corps d'athlète, a-t-il besoin de soupe de légumes?
Non, je suis toujours très sage, mais je suis pas contre une soupe de légumes. Mais faut courir.
Et Pierre Amiche, j'ai bien entendu qu'il s'en fout des soupes de légumes.
C'est pas très gentil.
Non, je parlais juste de ton goût pour la cuisine.
Il a pas encore trouvé les légumes.
Alors sachez que je cuisine très bien, y compris les légumes, et que contrairement à vous, j'ai passé des vacances horribles puisque j'ai enchaîné.
Ouais, petite mouche depuis 15 jours.
J'ai fait le doublé grippe angine, ce qui est une prouesse assez rare quand même.
Il a un mètre de moi, c'est gentil.
T'inquiète pas, je suis encore contagieux, mais je pense que t'as les anticorps, c'est bon.
Oui, absolument.
Bon, allez, messieurs, le cadran indique 2-0, 2 et 3 depuis le temps qu'on en parle. Ça y est, nous sommes en année de Coupe du Monde.
Comment est-il?
Un champion du monde.
Bentham dans le fermé, la femme de Palace, il est passé à l'intérieur.
L'essai
d'Antoine Dupont.
Extraordinaire essai.
Les joueurs sont allés chercher cette victoire, en fait, ils ont refusé la défaite.
T'as raison, on va y aller en souplesse.
Victoire de l'équipe de France.
Pas les chiffres qui nous dirigent, c'est nous qui dirigeons les chiffres.
Nique les champions du monde.
L'introduction pour Maxime Lucu.
Et c'est fini.
La France a gagné. La France a remporté le tournoi destination. Fic pour Aldrit dans les 22 mètres. Aldrit qui s'enfonce à 7 mètres de la ligne maintenant. On repart dans le fermé, c'est bon.
Gagner les champions du monde. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de joie, de fierté.
On enchaîne une 13e victoire, on finit l'année invaincu. Enfin, les Bleus finissent l'année invaincus.
Bon, toi aussi, oui. Mais voilà, il faut continuer, on a une grosse nation qui arrive pour encore continuer à grandir et préparer cette Coupe du Monde qui arrive dans un an.
Allez, sur la table, les poteaux. Les mains en l'air. Pour commencer, donc on souhaite donc une bonne année à la bande des poteaux et puis plein de joueurs professionnels, hein, messieurs et personnels. Et on envoie aussi tous nos vœux, comme tu l'as dit, Denis, aux auditeurs de ce podcast. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous rejoindre depuis des mois et on espère qu'on va vous embarquer dans cette année si importante. Et donc, comme on vous dit souvent, abonnez-vous, hein, entre les poteaux sur les plateformes. Comme ça, vous raterez aucun épisode. Ça va commencer à se préciser, messieurs, pour le 15 de France. Et on commence donc ce tour d'horizon par les Bleus, évidemment. Mais avant la Coupe du Monde, il y a du chemin à parcourir. Dernier tournoi destination, deux fois deuxième, puis vainqueur du Grand Chelem, les Français vont en Italie, vont en Irlande, reçoivent l'Écosse, vont en Angleterre et reçoivent le Pays de Galles. Sachez au passage que l'Irlande recevra et la France et l'Angleterre. Denis, concernant le parcours des Bleus, finalement on a fait le Grand Chelem en année paire l'année dernière avec la réception de l'Irlande et l'Angleterre. Est-ce que c'est pas là en 2023 l'occasion de grimper d'un niveau encore, quoi, en adversité, en allant à Dublin et à Londres, voir s'ils sont capables de faire ça, de monter encore d'un cran, les Français?
Évidemment, mais le problématique, c'est qu'on est devenu l'équipe à battre, quoi. Et quand tu es devenu l'équipe à battre, eh ben, ça devient de plus en plus compliqué parce que tu es analysé et que tes adversaires, ben, ils savent ils reconnaissent de plus en plus nos points faibles. Et on l'a vu lors de la dernière tournée d'automne où nos adversaires avaient ciblé quelques secteurs de jeu qui ont failli leur coûter la défaite aux Français. Donc ça va être compliqué, surtout face à des équipes comme l'Irlande qui est redevenue la belle équipe d'Irlande qu'on connaissait.
Numéro mondial.
L'Angleterre qui a changé de coach, qui va vouloir se rattraper des dernières saisons où ils n'ont pas été très brillants. Ça va être compliqué, déplacement compliqué. Évidemment que ça va compter aussi, ça va compter par rapport à la Coupe du Monde. Il va falloir essayer de gagner, d'être encore là et fort et de rester invincible. Évidemment, ça serait génial.
Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de cacher quelque chose aussi, Denis ? Parce que tu l'as dit, on est l'équipe à battre. Mais on sait que Fabien, il est toujours en avance sur son temps. Le tournoi aussi, il faut peut-être pas tout montrer et garder des choses comme peuvent le faire les Blacks. Des fois, on sait que les Blacks, ils ont tenté des choses la saison dernière. Est-ce que sur ce tournoi à destination, il ne faut pas se dire aussi, il ne faut peut-être pas tout dévoiler et que les nouvelles choses travaillées depuis quelques semaines, il faut peut-être essayer de cacher pour arriver à surprendre ? Parce que tu l'as dit, c'est l'équipe à battre.
Ouais, mais...
et tout le monde veut te faire tomber les Français. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de cacher et peut-être, même si on perd ce tournoi, mais préparer déjà la Coupe du Monde ?
Aujourd'hui, tu caches pas grand-chose. La vérité, c'est que aujourd'hui, tous les joueurs, on les connaît. On connaît la stratégie de Fabien Galthié, qui est une stratégie de dépossession. Il changera jamais. Il changera jamais, et ça lui a souri, puisqu'on est vaincu. Donc, tu sais, il faut rendre hommage à Fabien, à son staff. Ils sont dans le vrai aujourd'hui.
Oui. Ils ont coché les cases de leurs objectifs.
Même si lors des tests automne, on a eu des quelques doutes, parce que effectivement, à un moment donné, cette dépossession là, elle a quelques limites. Pour l'instant, ça gagne. J'aimerais pas qu'en Irlande ou en Angleterre, il y a un match où on se fasse concasser, qu'on perde et qu'on sorte avec de gros doutes. C'est ça qui me fait peur.
Pierre, est-ce que tu penses que ce tournoi sera révélateur de quelque chose dans le futur parcours des Bleus à la Coupe du Monde ?
C'est sûr que si on va gagner à Twickenham, ou si les Bleus vont gagner à Twickenham, ça voudra dire quelque chose. Si les Bleus vont gagner à Dublin, ça voudra dire quelque chose. Si les Bleus gagnent le tournoi, ce sera énorme, parce que la dernière fois qu'on a gagné une année impaire, c'était 2007. Ça commence à faire long. Il n'y avait aucun joueur qui était professionnel, qui sont dans cette équipe de France, et ils étaient tous des gosses. Donc oui, ça voudrait dire quelque chose. À l'inverse, si on ne gagne pas en Irlande, si on ne gagne pas à Twickenham, si on ne remporte pas le tournoi, je ne pense pas que ça remettra en question les objectifs de l'équipe de France, ni les certitudes de Fabien Galthié, ni son 15 de départ. En vrai, il y a
ce tournoi ne va rien changer alors.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça change quoi que ce soit dans la construction et la dynamique de cette équipe. Après, il y a des poncifs. Oui, il vaut mieux gagner que perdre, c'est mieux. Il vaut mieux pas prendre de branlée, c'est mieux. Il vaut mieux pas avoir de joueurs blessés, c'est mieux. Mais ouais, disons mais... que.
C'est ce qui vous apporte entre les poteaux. Ouais,
Pierre, là, je ne suis pas d'accord avec toi. La dynamique, elle existe dans tous les sports. La dynamique,
elle serait remise en question parce que tu perds en Irlande ou en Angleterre.
Remise en question par rapport à des équipes comme la Nouvelle-Zélande qui, nous l'oublions pas, va jouer le premier match de la Coupe du Monde. Oui, mais en perspective de la Coupe du Monde, tu vas quand même les jouer lors d'un premier match qui va être pas décisif, mais qui est très, très important pour la suite de la compétition. Donc je veux dire, à un moment donné, quand tu deviens, tu montres des quelques faiblesses et que tu montres que tu peux être battu, ça change tout. Pour moi, ça change tout.
Oui, mais tu sais comment tu vas jouer, tu sais quel est ton 15 au départ, tu sais la manière dont Fabien Galthié construit les matchs et tactiquement ce qu'on va faire. Si on perd, on perd. Il faut voir les
certitudes aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Julien.
Oui, mais sauf que les Sud-Africains, je trouve qu'ils avaient ciblé les points faibles, tu l'as dit, Denis, de cette fameuse dépossession et de cette défense très, très forte avec des coups de pied.
Même les Japonais, ne te trompe pas.
Mais je trouve que beaucoup d'équipes sont en train d'étudier l'équipe de France, parce que ça fait 4 ans que Fabien Galthié est à la tête de l'équipe de France et qu'on joue quasiment toujours de la même façon. Et que moi, finalement, ce tournoi, ce que j'attendrais presque, alors c'est peut-être pas, c'est plus le moment de faire un laboratoire et de faire des essais, mais essayer peut-être de montrer autre chose pour aussi essayer de surprendre. Parce que,
qu'on s'adapte aux autres peut-être aussi, non?
Je trouve que les Sudaf, ils nous ont très bien lu en octobre, en novembre, que les Japonais, ils nous avaient aussi posé des soucis, et que je me dis que les Blacks, ils vont nous attendre au premier match, et que ça fait un an qu'ils doivent étudier.
Mais même les Australiens, vous oubliez qu'il y a eu le miracle australien avant.
Je trouve que ce tournoi doit permettre peut-être à l'équipe de France d'avoir un plan B au cas où, et peut-être d'essayer des choses, parce que je trouve qu'on est trop lisible, en tout cas aujourd'hui. Cette équipe de France est lisible. Alors ça gagne, et tu restes sur 13 victoires d'affilée, donc tu vas dire que même si t'es lisible, tu continues à gagner. Mais j'ai l'impression que les équipes sont pas loin d'arriver à faire tourner et de faire peut-être vaciller la France sur ses certitudes.
Là où je suis d'accord avec toi, mais fondamentalement, je pense qu'il faut avoir un plan B. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui, dans la tête de Fabien Galthié, il y a un plan B. Tellement il est dans ses certitudes. Dans ses certitudes, je pense que il y a rien qui ébranle sa confiance. Mais il a raison. C'est peut-être que lui qui c'est lui. Là, on parle pour ne rien dire peut-être, parce que finalement, c'est lui qui a raison et qui
va
faire.
C'est pas ton habitude, Denis. Alors non, ça m'étonnerait.
Non, mais qui va faire un deuxième grand chelem et qu'on sera là à dire, cette équipe elle est imbattable.
Non, mais excuse-moi, Wilfried, dans 15 secondes, je pense qu'il y a aucune grande équipe. Il y a aucune grande équipe qui a de plan B. Le plus important, c'est d'avoir un plan A qui gagne et qui est le plus fort.
Oui,
et celui de l'équipe de France jusqu'à présent, c'est celui-là. Et je ne vois pas Fabien Galthié inventer quelque chose dans les 6 prochains mois. Et Fabien et son staff, il n'est pas tout seul. Hein.
Oui, bien sûr.
Dans les 6 prochains mois, qui soit meilleur que ce qu'il produit déjà.
Ça leur a coûté cher de ne pas avoir de plan B. Souvenez-vous, les Blacks en quart de finale en 2007. Mais bon.
Après, juste une parenthèse, c'est que les tournées d'automne ne ressemble jamais au match du tournoi à destination. Donc, c'est un point.
Je trouve qu'il y a beaucoup de pression dans le tournoi à destination. Hein. C'est
mais on ne les aborde pas de la même façon, je veux dire. Ouais. Donc, c'est pour ça que attendons de voir. Soyons prudents par rapport à la qualité de cette équipe de France et ce qu'elle peut encore donner mentalement et au niveau de la performance.
Ce serait bien que Pierre-Amiche arrête de tousser,
pardon,
s'il vous plaît.
Oui, mais il est malade.
Encore 5 ou 6 fois, je décède.
Le problème, c'est que bientôt, c'est moi qui vais tousser.
C'est un cluster. Est-ce que le Irlande-France, Denis, aura la valeur, le prestige du France-Angleterre de 2020, du France-Nouvelle-Zélande 2021 ou du France-Afrique du Sud 2023? L'Irlande est première
à battre
les grosses nations. C'est The Match quand même. Il y aura l'Angleterre aussi, mais est-ce que le France-Irlande, là, sur la route de la Coupe du Monde, c'est un match à part?
Pour moi, oui.
Enfin, Irlande-France, à Dublin.
Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord de rester invaincu. Ça, c'est la première raison qui est valable par rapport à la dynamique dont je parlais tout à l'heure. Mais la deuxième, c'est quand même qu'on risque de les affronter en quart de finale. Pour la Coupe du Monde, il y a de grandes chances d'ailleurs.
Psychologiquement,
c'est important, mais surtout parce que par rapport à une équipe d'Irlande qui pour moi est très impressionnante, qui est en train de bâtir un système de jeu un peu différent des Français, qui eux n'est pas sur la dépossession, mais sur la possession.
C'est
mécanique et tu arrives pas à leur prendre les ballons. Tout est programmé autour de Sexton et un paquet d'avant qui est extrêmement performant avec le meilleur joueur du monde en troisième ligne. C'est une équipe qui va nous attendre et qui ça va être le vrai test en fait. C'est-à-dire est-ce qu'on va résister à la pression et du public et de cette équipe irlandaise? Ça, c'est il me tente de le voir.
Alors on parlait de joueurs clés.
Faire les battre en quart de finale et perdre à Dublin en février.
Oui,
mais ça c'est les consignes de la poteau.
C'est
pour moi.
Allez, c'est cadeau. Accepter que la confiance, il faut pas leur donner trop de confiance si en vue d'un potentiel quart de finale.
On parle toujours en quart de finale les Irlandais.
Il faut monter le niveau les gars, c'est le début de l'année, mais enfin monter le niveau.
Laisse-nous monter en puissance tranquillement.
C'était long les vacances. On parlait de joueurs clés. Alors c'est vrai qu'on connaît quand même les cadres de ce 15 de France autour de l'extraterrestre Antoine Dupont. Qui vous intéresse cette année et pourquoi, Julien? Est-ce que chez les Bleus, il y a un joueur qui...
Non, mais je pense qu'on va en parler après. C'est les incertitudes. Je pense qu'aujourd'hui, il est quasiment figé, le 15 de Fabien Galthié dans sa tête. Je trouve que la seule incertitude, c'est à l'arrière et que la saison de Thomas Ramos, depuis le début de la saison avec le Stade Toulousain, qui est étincelant, va remettre en cause, à mon avis, la titularisation, ou pas d'ailleurs, peut-être de Melvin Jaminet. Mais je trouve que si la seule incertitude, moi, je trouve qu'elle est là...
En deuxième ligne, on n'est pas... Presta...
C'est vrai, mais je trouve que les prestations de Thomas Ramos aujourd'hui interrogent en tout cas sur le 15 de cette équipe de France. Et aujourd'hui, je trouve que Ramos est devant Jaminet et que je trouve que la saison que fait Ramos incite à le suivre
attention,
encore plus.
Attention, tu n'es pas
Ramos
dans la tête de Fabien Galthié.
Oui.
Si je me mets dans la peau de Fabien Galthié,
il n'y a plus trop de place.
Il y a beaucoup de monde qui vont rentrer en moi. mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien que Fabien Galthié est très attaché au jeu long.
De
au pied de Jaminet
et que
dans le choix si Jaminet est encore performant au stade Toulousain, mais je pense que le choix il sera vite fait, alors que j'adore Ramos et qu'il mérite
pas
de jouer
normalement. Denis, en équipe de France, ils ont eu un Ramos très bon
attention Jaminet joue très long et coup de pied buteur très long aussi.
Denis, enchaîne. Est-ce qu'il y a un joueur toi en particulier qui t'intéresse chez les Bleus ou que tu as envie de revoir,
qui sera décisif ou
qui sera décisif?
Dupont, c'est un poncif de plus. Hein.
Ouais, mais bon,
Antoine,
alors. Question en disant on oublie Antoine Dupont.
C'est ce que j'ai dit, voilà, pas Antoine Dupont.
Ok, donc là, je suis d'accord. Mais moi, il y a un extraterrestre, un second dans cette équipe de France, il s'appelle Damien Penaud.
Ouais.
Donc je pense que c'est ce genre
qui
de.
Qui veut digérer son départ de Clermont pour Bordeaux aussi.
Oui, mais enfin, bon, après, il aura 4 mois de préparation, une Coupe du Monde. Je pense que ce joueur-là, c'est. Voilà, c'est un joueur qui. C'est un, on n'a pas pas, on n'arrête pas de donner ses qualités, mais c'est ce joueur-là qui peut te faire gagner une Coupe du Monde. Voilà, je le pense sincèrement et j'attends de voir son tournoi et puis évidemment la Coupe du Monde.
Pierre.
Dans les joueurs actuels du 15 de France,
qui t'intéresse un peu plus cette année
J'espère que Cyril Bailly va revenir à 100% et être capable d'enchaîner 5 matchs de très haut niveau. Ce sera le cas pour la Coupe du Monde ou pour le tournoi. Ouais. Parce qu'à mes yeux, c'est le meilleur gaucher du monde et que sans lui, l'équipe de France est bien moins forte.
D'accord. Moi, je trouve que Danti est rentré dans une autre dimension depuis des mois et qui sera au point d'ancrage cette année incontournable. Je le trouve époustouflant tous les week-ends
avec La Rochelle.
Avec La Rochelle, il a été avec le 15 de France aussi. Est-ce que vous pensez que les hiérarchies sont figées? Est-ce que des petits nouveaux peuvent rejoindre le 15 de France? Est-ce qu'il y a des joueurs qui... Voilà, on parle souvent de... On va parler avec le top 14 après, mais voilà, s'il n'y a plus beaucoup de place, Denis?
Non.
Là
non, il peut y avoir un ovni.
On parle de Roumat souvent.
L'ailier de Bordeaux.
Bielbarré.
Qui est impressionnant aussi. Moi, je l'ai eu avec les Barbarians contre les Fidji.
Du Mortier, à Lyon, on en parle beaucoup aussi.
Du Mortier, pourquoi pas le.
Sur les ailes.
Mais
Alexandre
est-ce que c'est
Alexandre Roumat
peut... fait une très grosse saison avec le Stade Toulousain.
Oui, puis on sait que Fabien, c'est un profil qui l'intéresse parce que très fort sur les ballons. Je trouve qu'il.
On peut jouer avec trois troisième ligne, les amis. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, pas titulaire, mais qui peut rentrer dans un rôle de remplaçant, par exemple. Sachant que c'est un profil qui, et puis je pense sincèrement qu'il est en train de progresser. Il a monté d'une marche sincèrement ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les 42 et qu'il figure sur une feuille de match cette année pour le tournoi.
Après, il va falloir comme dit Pierre, en troisième ligne, c'est pas l'endroit où on a le moins de problèmes. On se demande si on peut faire jouer Charles Olivon ou on ne doit pas faire jouer Charles Olivon. Et là,
ils seront que 33 dans le groupe. Un groupe de 42, là, ce sera que 33 pour la Coupe
du Monde. Oui, mais attention, sur un match du tournoi, tu as 2-3 remplaçants en général.
Pour les incertitudes, on a toujours l'incertitude quand même Gabin Villière, parce que
il a normalement une place au chaud, mais il va falloir qu'il revienne.
Ouais, mais il a la place au chaud, il va falloir qu'il revienne, et du coup, on sait même pas s'il va pouvoir prétendre au tournoi destination. Et que sur l'aile, tu parlais du Mortier, pourquoi pas. Et après, s'il y a une incertitude, c'est peut-être en deuxième ligne, parce que.
Paul Widemse, où en est-il?
Voilà.
Oui, puis Wookie fait pas une saison.
Est-ce que Wookie, on le conserve dans sa deuxième ligne?
Alors, Wookie, c'est l'assurance tout risque au niveau équipe de France. Je ne pense pas qu'il soit remis en question.
C'est cruel quand même, parce que quand on voit les matchs que Camara a pu faire en deuxième ligne à Montpellier.
C'est vrai.
C'est quand même, on peut légitimement s'interroger
mais
sur
là,
le fait qu'il puisse jouer.
Je suis d'accord avec toi, mais il est pas dans la dynamique.
Que Camara peut jouer 4, 5, 6, 7, 8. Il peut jouer.
Ouais, mais
tu 5 postes.
Tu sais très bien comme moi que Fabien accorde des confiances.
Puis c'est dur de changer.
Ah non, mais on s'est demandé Denis s'il y avait des incertitudes. Moi, je trouve que la deuxième ligne, c'est la seule incertitude.
Moi, j'en ai une minuscule.
Va retrouver son niveau.
Ouais. Pierre.
Moi, j'en ai une minuscule. Pardon, excuse-moi, Julien, je t'ai coupé. J'en ai une minuscule. C'est le troisième neuf. Le troisième neuf, il y a un joueur dont on parlait beaucoup il y a 6 mois, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, c'est Nolan Le Garec.
C'est couillou le troisième neuf, normalement. Hein.
Bien sûr, tu as raison, mais Nolan Le Garec était annoncé par nous, notamment, et par Denis en particulier, comme un ovni potentiel.
Ce ouais.
C'est un peu plus dur pour lui, mais il ne faut pas l'enterrer, notamment pour la Coupe du Monde, parce que c'est un joueur qui a un talent rare. Donc voilà, c'est le genre de joueur, pourquoi pas le voir ailleurs. Et le troisième pilier droit, pareil, est-ce que ce sera Demba Bamba, Mohamed Awas, Winnie Antonio? On a la chance d'avoir des bons piliers droits. Je ne sais pas lequel aura la préférence du staff. Pour l'instant, Winnie Antonio semble avoir une longueur d'avance. Mais là aussi, il n'y a pas de titulaire indiscutable, incontournable et certain avant la Coupe du Monde.
Juste pour finir, sur les Bleus, vous préférez quoi en quart de finale? Tu préfères l'Irlande ou l'Afrique du Sud?
L'Écosse.
C'est vrai que l'Écosse est dans cette poule, mais je vois. Enfin, les pronostics donnent pas l'Écosse face à l'Irlande et l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai, faut pas les oublier.
Le problème,
on
c'est
va
que
rester sur l'Afrique du Sud ou l'Irlande.
L'Irlande, parce qu'il perd toujours un quart de finale historiquement.
Ouais, alors ça, c'est un argument qui est plus trop valable, j'ai l'impression. Mais bon, ça, c'est.
Mais en même temps, les gars, rien ne dit que les Irlandais ne battront pas les box et que nous, si on gagne contre les Blacks, on peut retrouver l'Afrique du Sud. Ouais. Est-ce que c'est pas le quart de finale le plus difficile de la compète? Parce que de l'autre côté, il y a l'Argentine, l'Angleterre, l'Australie.
Tu as bien résumé. Tu peux très bien perdre contre la Nouvelle-Zélande. C'est pas interdit au premier match. Et te retrouver face à l'Afrique du Sud qui gagnerait l'Irlande en quart de finale. Moi, sur ce que j'ai vu et sur ce qu'on a regardé de l'Afrique du Sud me fait peur. Voilà, tu peux pas nier que l'Afrique du Sud aujourd'hui physiquement.
Ouais, à 14 elle est, nous a fait bobo.
Elle est monstrueuse et puis elle l'a prouvé contre les Blacks, elle l'a prouvé contre toutes les nations. Même si l'Irlande reste numéro 1 au classement et que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura un vrai test en Irlande en février.
Mais je suis très bien. C'est des équipes qui vont être préparées parce que les Afriques du Sud arrivaient en bout de course finalement en France. Oui. Là, ils vont sortir d'une grosse préparation.
Oui, en plus.
Ils vont passer par la prépa, ils vont se remettre torse nu en photo là, comme ils ont fait là, en 2019. Là.
Ben voilà, faut pas oublier que ces équipes-là, sur ces Coupes du Monde, elles arrivent préparées que pour cet événement-là.
Mais après,
déjà que l'Afrique du Sud nous a fait très mal, tu te dis que physiquement, ils vont être encore un cran au-dessus et qu'il va falloir se les farcir.
Après, l'argument de dire que l'Irlande perd toujours en quart de finale, il va falloir arrêter avec ça parce que je pense qu'un jour, malheureusement, ils passeront la marche.
Quatrième poncif.
Non, mais c'est.
Un jour, ils gagneront un quart.
Tu poses le micro, tu lui casses la gueule à ton pays.
Pourquoi je dis c'est que je pense que c'est une équipe d'Irlande qui n'a jamais été aussi forte.
Je rigole, mais je suis d'accord avec toi.
Dans le sens où il y a une confiance inébranlable. Donc
ils ne sont jamais arrivés à une Coupe du Monde avec ce potentiel-là.
Je te dis, j'aimerais pas prendre l'Afrique du Sud en quart. Je me demande si c'est. Finalement, ils ne vont pas prendre l'Afrique du Sud. Parce que l'Irlande le connaît bien. Donc,
le seul défaut, enfin, la problématique irlandaise qui est unique pour eux et pour les autres nations, c'est qu'eux n'ont.
Ils sont roux.
c'est qu'ils n'ont pas de marge de progression. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment déjà au taquet avec l'équipe d'Irlande.
Vrai, tu as raison.
Nous, on a souvent des préparations plus longues de 2 mois où tout le monde progresse. C'est le cas pour l'Afrique du Sud, c'est le cas pour la Nouvelle-Zélande, c'est le cas pour la France, c'est le cas pour l'Angleterre. C'est pas le cas pour l'Irlande parce que la plupart du temps, ils sont dans du coton toute la saison. Ils donnent 100% de leur capacité déjà en équipe d'Irlande et c'est rare de les voir franchir ce tout petit cap qui leur permet de battre les meilleures nations.
Et puis ils vont jouer les Box et l'Écosse en poule, donc ils vont laisser des
plumes
aussi en poule.
Oui, il y a moyen qu'ils soient fatigués. Bon,
attention à l'Écosse aussi. On parle de l'Irlande, mais n'oubliez pas l'Écosse.
Sexton qui d'ailleurs est peut-être forfait pour le premier match du tournoi, il était blessé au visage aujourd'hui, lundi. Donc
il y a de l'info en plus d'entre les
potos. Oui, il y a pas que des poncifs, il y a quelques infos quand même.
Je crois qu'il se réserve.
C'est quoi, il se réserve pour la France.
Bon, allez, pour finir sur les Bleus, le plus grand rival pour la victoire finale, pour vous,
L'Afrique du Sud.
Sans
conteste.
La Nouvelle-Zélande.
D'accord, Julien.
Les Blacks, parce que je pense que ça fait un an qu'ils se préparent tranquillement.
Ouais, l'Afrique du Sud, ça fera 2-2, comme ça, on est tous d'accord. On a fait le tour concernant le 15 de France. Allez, place au top 14.
Après 9 mois et demi de saison 2021-2022, Montpellier, champion de France.
Bon, ça
championnat où en ce moment et jusqu'à fin janvier les internationaux tentent de se montrer pour faire partie de la liste du tournoi. C'est souvent comme ça profite au Stade Toulousain visiblement. Impressionnant hein, à Clermont ce week-end et doté en tête du top 14 de 12 points d'avance sur le 3ème qui est La Rochelle. Les Toulousains sur ce qu'ils ont montré depuis la plus de la moitié de la saison, peuvent-ils passer à côté du Brennus, Denis?
Ils ont un match à gagner pour se retrouver en finale parce qu'ils vont forcément finir.
Ils vont être à Saint-Sébastien.
Premier, donc ils sont
en demi-finale.
Oui, bien sûr. Ça c'est quasi certain. Donc, on voit depuis 3 ans que le vainqueur, c'est celui qui joue les demi-finales. Hein. N'oubliez pas ça. Et oui.
Si on suit
le raisonnement, ça veut dire qu'ils ont une chance sur deux d'être champions déjà. Mais c'est sincèrement. Alors, je vais vous faire un aveu. Moi, quand j'ai regardé les deux compositions d'équipe le matin du match de Clermont et Toulouse, j'ai dit ils vont en prendre une valse, c'était Clermont. C'est mon premier ressenti, j'ai dit aïe aïe aïe.
Clairement, toi, ils avaient beaucoup d'absents. Mais...
Et puis en plus, avec le petit Dupont, l'ouverture, je me suis dit, c'est pas bon. Mais là, ce qu'on a vu hier soir encore, c'est une démonstration. Et puis, tu sens que ce collectif est inébranlable, quel que soit le joueur que tu changes. Il y a la qualité partout.
Ils
les
ont
remplaçants.
Peut-être eu les leçons de l'année dernière en plus, où c'était usé dans la saison, à moins faire tourner.
Évidemment qu'ils auront une équipe type, parce que tu la vois de se dégager très vite, mais ils ont quand même un effectif, c'est impressionnant. Non, franchement, je crois que je vois pas comment ils seront pas champions, mais après, tu sais, voilà, dans un détail, un carton rouge.
Justement, qui pour le Brennus, Pierre, qui pour le Brennus? Est-ce que tu as une grosse cote?
Oui, l'UBB. Ouais. Bébé parce qu'ils produisent un rugby qui me plaît déjà, donc c'est plutôt chouette. Et puis parce qu'ils sont à un niveau de confiance qui n'a pas existé du côté bordelais depuis au moins un an et demi, voire deux ans. Et je les trouve
pourtant,
vraiment impressionnants.
Mal parti, hein.
Mais quand tu regardes le contenu des matchs, l'effectif qu'ils ont, ce qu'ils proposent, le niveau de confiance et les leaders qui se dégage de cette équipe-là, je sais pas, j'ai le sentiment, et malgré mon amitié pour Christophe Furios, j'ai le sentiment que depuis le départ de Christophe Furios, il y a un truc qui se passe à Bordeaux et il devrait pas être très loin dans le sprint final.
Julien,
je vois pas qui va empêcher Toulouse d'être champion, parce que tu as dit qu'il y avait des absents hier à Clermont, il y avait aussi des absents à Toulouse hier. Non, mais il y avait pas Ramos, il y avait pas Ntamack, il y avait quand même des mecs, il leur manquait quand même des quatre. Tu te dis qu'ils sont des titulaires en puissance dans cette équipe. Il y avait pas Movaka, il y avait pas Petahaki, il y avait des mecs qui sont
Cross,
là normalement.
Non, mais c'est ça.
Donc tu te dis que cette équipe-là, avec la profondeur de banc et en plus avec la manière dont ils font tourner cette année, c'est-à-dire qu'ils vont faire du jus.
Mais un match de phase finale peut-il suffire aux adversaires des Toulousains, justement, comme Castres l'année dernière, même si les Toulousains étaient rincés l'année dernière.
Sur
un match, des fois il y a des saisons aussi où il y a des logiques. Une équipe qui a tout dominé, l'emporte.
Non, mais après tu peux te dire que s'ils affrontent le Racing en demi-finale, le Racing a aussi une profondeur d'effectifs très large et qu'ils ont les armes pour concurrencer le Stade Toulousain. Aujourd'hui, à l'heure où on parle et de ce que montrent les équipes de ce top 14, tu te dis que Toulouse, en fait, ils n'ont pas connu quasiment de creux cette saison. Ils ont eu quoi, deux défaites là au mois de
mais non, mais
mois
la, gra- la grande différence avec la saison de dernière, c'est que là, ils ont faim. Ils ont à nouveau l'appétit de victoire. Tu sens que ils sont partis sur un autre cycle, en fait. Et que la saison de dernière, ils étaient un peu usés, ils étaient sur les rotules.
On en parlera aussi après le tournoi, parce que comme à chaque tournoi, ils auront 10 bonhommes qui vont partir faire le 6 nations.
C'est pas faux, c'est un argument qui est...
Et peut-être qu'à la sortie du tournoi, il y aura un peu d'usure, un peu de fatigue.
Oui, il faudra enchaîner 8e, quart,
exactement.
Demi de Coupe d'Europe.
Il y a la Coupe d'Europe, il y a le top 14 avec des matchs difficiles.
Oui, mais sauf que contrairement à l'année dernière, Pierre, où on disait l'année dernière, ils étaient 6e à un moment, ils devaient absolument se battre.
Oui, là, ils sont...
Position où ils sont, ils se disent que même s'ils ratent le tournoi... Ils seront quasiment comme les Edenis, ils sont quasiment sûrs d'être dans les deux et qu'ils vont pouvoir se concentrer sur la Coupe d'Europe et finalement plus gagner que les matchs au stadium à Ernest Vallon cette année.
Non mais vous avez raison, mais j'ai toujours un petit sentiment de méfiance quand même quand on dit ils sont sûrs d'être dans les deux. C'est arrivé des dizaines de fois où on disait ils sont sûrs d'être dans les deux.
Enfin là, ils ont 3 victoires d'avance.
Là c'est pas possible.
Il reste 12 matchs.
Soyons prudents.
Avec 3 victoires d'avance, ils ont quand même un matelas.
Non mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est factuel, c'est mathématique. Mais je me méfie des certitudes. Et quand au mois de novembre on établit des plans en disant oui l'équipe de France va faire ci ou va faire mi, je me méfie. Et quand mois de janvier on dit Toulouse est sûr d'être champion, je me méfie. Je me permets de poser quelques réserves sur le fait que Toulouse est une super
bien
équipe, mais super leader, ils
bien
sont
sûr.
En avance, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être champions.
Excepté que ce qu'ils font actuellement, ils le faisaient pas l'année dernière.
C'est vrai.
Deux questions. Bayonne sera-t-il dans les 6, Denis?
Bayonne, c'est un ovni quoi dans le top 14. Sincèrement, c'est bravo à eux, chapeau, parce que quel courage, quelle bravoure. Tu les vois jouer. J'ai vu le début de match, j'ai vu la première mi-temps là, contre Toulon. Ils ont été balayés. Tu te dis ils reviennent et puis ils gagnent. Tu te dis mais si.
Je pensais que la magie allait s'arrêter. Franchement,
ouais,
avant
moi
le
aussi.
Match,
moi aussi, parce que mais surtout après un quart d'heure de jeu, tu te dis bon, c'est bon, ils vont prendre 40 chez eux et puis la messe est dite. Non, il y a quelque chose qui dépasse le comment dire, quelque chose de rationnel chez eux. Il y a un collectif, il y a des joueurs qui...
C'est très serré. Ils sont 5e avec 35 points. L'UBB à 35 derrière, Montpellier 34, Toulon 31.
Il va y avoir une négociation de ce deuxième partie de saison qui va être compliquée. Mais attention, ils n'ont pas beaucoup d'internationaux.
Oui, ils vont pouvoir faire tourner
ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ouais. Enfin, quand je dis Coupe d'Europe, de la Grande Coupe d'Europe.
Ils peuvent faire tourner, oui.
Attention Bayonne, attention.
Julien et Pierre, Montpellier et Castres, les deux finalistes, vont-ils louper le rendez-vous des phases finales? Julien, Montpellier,
Non, mais c'est comme en 2018, finalement. Ils avaient fait la finale Montpellier-Castres en 2018. La saison suivante, les Castres s'étaient pas qualifiés pour les phases finales, les Montpellierains non plus. Tu sens que pour ces équipes-là, la digestion, elle est difficile. Alors, elle est plus difficile cette saison pour les Castres que pour les Montpellierains.
Ils ont 28 points, Montpellier à 34, quand
même.
Montpellier
7e. Mais tu sens que les Montpellierains, ils sont pas loin. Ils sont un peu dans le creux, là, comme a pu l'être l'UBB il y a 2 mois.
Ils sont irréguliers.
Et dans ce championnat, si tu enchaînes 3 victoires et que tu retrouves un peu la confiance, même si eux aussi ils vont être pénalisés par le tournoi. tournoi parce qu'ils ont quand même quelques internationaux. Mais voilà, tu sens que le jeu de façon pratiqué par les Montpellierains, que le jeu pratiqué par l'équipe de France, enquiquinera toujours des équipes, même si tu sens que les équipes aussi trouvent des phases. Ils seront pas loin. Alors après, ils seront peut-être 7e, mais je pense qu'ils seront quand même pas très loin de la qualification. Ça va pas se jouer à grand chose. Chaque point va compter.
Denis, il se passe quoi au Stade Français? Il se passe quoi au Stade Français, Denis? Une histoire d'homme autour de Gonzalo Quesada là?
Ouais, après.
Deuxième avec 42 points.
Bah, c'est-à-dire que oui, il y a sûrement un petit effet comme ça où tu te resserres. Parce qu'il faut dire que quand même, il y a eu des hauts et des bas au Stade Français. Tout d'un coup, il y a une dynamique qui se lance. Et tu sais pas d'où ça vient, mais après, quand tu regardes de près, tu te dis, le pack qu'ils ont, je pense que c'est un des meilleurs packs du top 14. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. Et puis, là, quand même, derrière ce pack énorme, tu as l'avènement de Makalou, qui est exceptionnel en ce moment, avec Morgan Parra qui apporte son expérience. Tout ça en train de prendre forme avec un Léo Barré qui a 20 piges, mais qui est l'avenir de ce club et voire du 15 de France. Donc, c'est vrai qu'on avait quelques doutes par rapport aux trois quarts avec le départ de Weissel. On s'est dit bon,
ils perdent Weissel, Lomapé qui étaient les deux stars.
Encore que Lomapé n'avait pas fait de grands matchs.
Non, mais c'est sûr.
Weissel était un extraterrestre.
Mais
dans
sur
ce
le
championnat.
Papier, t'avais deux stars dans cette équipe. Là, t'en as plus. Et donc, pourtant, ils sont meilleurs.
Tu as eu des doutes et puis finalement, même les trois quarts, ils sont mis au diapason du pack. Ouais. Mais attention, le pack, ils ont récupéré Alo Emile, qui est le meilleur pilier droit peut-être du championnat.
Casse-tête est monstrueux à gauche aussi.
Et puis ils ont quasiment 16 joueurs au même niveau devant. Donc, ils sont dans la course au titre comme d'autres équipes. Mais attention, il va falloir jouer cette équipe, ça France.
Ils ont un joueur que j'adore qui est Briat, quand même, qui a une dégaine de joueur des années 80. On se dit, il ne doit pas être performant et tout. Il est monstrueux. Monstrueux.
Et capitaine.
Une équipe qui tourne.
Il est en train de s'imposer en tant que capitaine.
Bravo.
Non, c'est
la bonne pioche.
Voilà, il va falloir pour le Stade Français bien négocier ce match qui va arriver samedi. Très vite, car face à des castrés qui ont besoin de points.
On passe vite, rapidement bas du classement. Est-ce que tout se résume à un duel entre Brive et Perpignan? Il y a Pau et Clermont qui sont 6 points devant ou non? Vous pensez que c'est. Non. Le SAP a eu très mal, là, Noël, quand même. Là, hein, a pris 40 à Montpellier.
Les Catalans l'ont clairement annoncé. Ils ont dit que c'était maintenant un mano à mano entre Brive et Perpignan.
Et donc Pau et Clermont, 6 points devant. Attention à la dynamique briviste.
En tout cas, dans leur esprit, ils ne visent plus que la 13e place, en tout cas les Catalans. Je pense que les Brives vont faire pareil avec une finale du coup dans 3 semaines, un Brive Perpignan à Brive, en sachant que les Brivis se sont imposés à l'aller.
Il y aura encore du temps
avec le bonus offensif.
Il y aura encore du temps,
mais si les Catalans vont perdre à Brive, ils vont prendre un
ils
gros,
ont 3 points
gros
de retard sur Brive là. Ils sont derniers avec 3 points de retard sur Brive.
Ils avaient 5 points d'avance il y a 3 semaines.
La saison longue, il faut attendre jusqu'au dernier moment. On l'a vu depuis 2-3 ans, c'est tellement serré. Mais évidemment que pour moi, quand tu vois l'équipe de Pau, l'effectif de Pau, je vois pas comment Pau ne se maintiendra pas. Donc je pense que la lutte elle va être entre Brive et Perpignan.
Bon. Vos coups de cœur côté joueur pour finir sur ce top 14 pour ce printemps 2023 à venir. On parle souvent d'OVNI ou qui réveille chez vous de la passion là, en ce moment, Denis, chez toi, un joueur dans le top 14 hors international que tu apprécies. J'ai vu un très bon Gibert au passage à l'ouverture avec le Racing à Castres.
Ouais,
on parle de joueurs de ballon.
Réfléchir, mais
allô Emile. Ce serait génial. Denis, la contre-nature
non,
totale.
Mais pourquoi pas le petit Léo Barré, parce que c'est...
On en parle beaucoup. Hein.
Non, mais moi, j'ai eu la chance de sélectionner. Ouais. Quand Gonzalo me l'a donné pour les Babas contre les Fidji. Il est dans l'esprit, il a tout. Ce garçon a tout, le pied, les mains. Après, c'est pas trop tôt pour dire jusqu'où il va aller.
Non, mais c'est simplement le joueur qui te met l'étincelle, qui a envie pour le printemps, qui va être important.
Ce gamin, il a tout. Voilà, il a tout. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu trop venir, alors que c'est quand même un garçon qui a 20 ans. Quoi, mais lui, il m'a impressionné. Voilà, il m'a impressionné.
Julien?
J'aime beaucoup Léo Colli à Montpellier qui a franchi l'étape Pro D2 top 14. Il y avait forcément des incertitudes sur savoir comment il allait
classe,
gérer
je trouve, Léo Colli sur le terrain.
Non, voilà, tu sens qu'il a il a toujours la tête haute, il regarde, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans son jeu au pied et tu sens Pierre parlait tout à l'heure du petit Le Garec en numéro 3. Je pense que Léo Colli peut être pas loin de alors peut-être pas d'embêter le Garec vraiment mais de pas loin d'être faire la maille parce que je trouve vraiment qu'il fait une très très bonne saison à Montpellier.
Pierre,
Julien Delbouis. parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est un rock, parce qu'il me fait penser à Yannick Jozion.
Il a prolongé là au Stade Français.
Parce qu'il est au cœur d'une attaque qui comptait pas vraiment sur lui jusqu'à il y a 6 mois. Oui, et en fait,
raison, il est en train de révolutionner les trois quarts.
C'est un cheval.
Mais révolutionner dans le sens où il apporte une dimension.
Ouais, il est différent.
Différent.
Et voilà, j'aime beaucoup.
D'accord, perso, j'en ai deux.
T'as droit qu'à qu'un.
Non, moi j'en ai deux, je fais ce que je veux.
Ah bon.
Celui qui me met frisson, on en a parlé, c'est Bielbarré, j'aime beaucoup. Et on l'avait.
Je t'en ai parlé tout à l'heure.
Il y a des mois qu'il a commencé, il a eu du mal à confirmer. Là, il a fait un très bon match. Bon, c'est pas un match, mais la faculté qu'il a, voilà, en un contre un, avec ses grands compas, là, je trouve très, très beau joueur. Et un autre qui me met le frisson, mais pas pour les mêmes raisons, c'est Emmanuel Méafou, au Stade Toulousain, qui emporte tout sur son passage depuis des semaines. Et c'est un moteur du pack toulousain, il va falloir l'arrêter s'il continue comme ça à avoir de la caisse. C'était son défaut avant, aller à faire des gros matchs et 60-70 minutes. Eh ben, il faudra l'arrêter avec Toulouse.
Mais d'ailleurs,
moi j'ai beaucoup aimé Paul Boudéan ce week-end. Le Rochelet, vous, les amis Rochelet.
Lequel, pardon?
Paul Boudéan, le troisième ligne.
Mais à fou, il va être sélectionnable ou pas?
C'est ce qu'il faut regarder. Pas tout de suite, parce qu'il y avait une histoire entre 3 et 5 ans. Là, tu sais que nous, c'est les poncifs, c'est pas l'expertise entre les poteaux, on peut pas apporter ça aux auditeurs. Non, mais pas pour l'instant, parce que.
Par contre, je pense que Fabien Galthié, il regarde avec impatience la date où il va pouvoir le sélectionner.
Comme ça en deuxième ligne. Ça, c'est sûr. On vous le dira très bientôt entre les poteaux, vous inquiétez pas.
C'est toutes les semaines, normalement ça devrait aller la semaine prochaine.
On aura la réponse.
Abonnez-vous et vous aurez la réponse à un moment.
On va finir très vite avec la Coupe d'Europe. Juste avant, on doit libérer Julien Landry qui a les obligations professionnelles. Merci Julien d'être passé nous voir.
Puis la Coupe d'Europe à Montpellier, c'est encore trop loin.
Ouais, pour voilà. Non, faut que tu étais accaparé par le foot aujourd'hui, un certain Montpellier OM. Merci Julien, bonne année à toi. On se revoit très vite.
Merci à vous. Ciao,
nous on enchaîne avec les deux restants. On ira deux fois à Dublin, messieurs, cette année avec les Bleus et pour les finales européennes.
Allez,
mais c'est fini.
10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5.
Quel souvenir, Denis, Pierre aussi, souvenir à Marseille, génial, dans un stade Vélodrome comble comme ça avec les supporters rochelais.
Surtout avec le scénario qu'ils nous ont offert.
Ah oui, c'est rarement, j'ai quasiment jamais arrivé qu'une finale de Coupe d'Europe se joue sur la dernière seconde, un essai comme ça qui donne la victoire à une équipe. Voilà, le 20 mai, ce sera la finale de la Champions Cup à l'Aviva Stadium. Alors messieurs, ça semble quand même un ton au-dessus du top 14 quand même en termes d'adversité. Il y a maintenant les provinces sud-africaines, elles sont dans la course. Les Sharks ont 2 victoires en 2 matchs. Les Bulls et les Stormers en ont une, mais ils ont 5 points avec du bonus défensif. Elles sont là donc. Puis on peut évoquer Exeter, Saracens, Leicester, évidemment le Leinster. Ça nous promet des phases finales de feu. Denis, voilà, on a du mal un peu, on l'avoue, c'est ce que tu vas peut-être dire, avec la lisibilité de cette compétition.
Oui, parce que c'est
Mais bon, les matchs couperés, quand ils arrivent, Denis, ça nous réconcilie avec la Champions Cup.
Déjà, ce qu'on voit, les matchs qu'on a vus, notamment Munster-Stade Toulousain, je me trompe, non, Leinster, non, Munster-Stade Toulousain, exceptionnel, Leinster qui a balayé le Racing, non, mais il y a des équipes exceptionnelles. C'est vrai que la visibilité, elle n'est pas formidable, parce que dans ces matchs de poule, mais ça n'enlève pas la qualité du spectacle, on l'a vu. Et après, évidemment, on va rentrer dans des phases finales qui vont être des matchs intenses, des matchs de très haut niveau et qui se rapprochent vraiment du niveau international. Et voilà, cette Coupe d'Europe, on ne peut que l'aimer. Alors,
le Leinster peut-il tomber deux fois, messieurs? C'est-à-dire être piégé en finale face à La Rochelle et encore, parce qu'on a vu leur démonstration face au Racing, on connaît la machine Leinster.
C'est un peu l'équipe d'Irlande.
Oui, c'est quasiment l'équipe d'Irlande.
Elle peut tomber, oui, on l'a vu, La Rochelle les a fait tomber. Je pense que cette année, il va falloir compter sur Stade Toulousain aussi. Donc, Leinster, Stade Toulousain, on l'attend de pied ferme. Si ça pourrait être une finale là-bas, Leinster, Stade Toulousain, on signe tout de suite.
Pierre, tu vois un doublé de Toulouse ?
Je pense que c'est l'équipe qui est la mieux armée pour combattre le Leinster. Ouais. Parce que le Leinster, en fait, on sait comment il fonctionne. S'ils gagnent le premier duel, c'est un rouleau compresseur, ils enchaînent. Ils ont exactement la même stratégie que l'équipe d'Irlande avec des longues phases de possession, avec un 10 en pivot qui alimente tout le monde. Enfin, c'est très joli à voir, mais il faut gagner le premier duel. Et je pense que
Toulouse peut les contenter.
Ils peuvent le faire aussi, hein, le Leinster. Hein.
Ouais, bien sûr, ils peuvent gagner. Et je pense que Toulouse est une des rares équipes qui peut les embêter. Après, franchement, cette Coupe d'Europe, je la trouve, je suis pas d'accord avec toi, Denis, je la trouve illisible, je la trouve chiante à mourir.
Non, mais quand t'arrives les 8e, l'écart après les demi.
D'accord, vous me dites la Coupe d'Europe, c'est bien quand il y a les phases finales. Bah oui, mais avant, il faut se taper les matchs horribles dans des stades vides, filmés depuis la planète Mars. Je ne prends aucun plaisir.
C'est pas que j'étais libre et que Munster, le stade était plein.
Munster, le stade était plein.
Mais vous me parlez des trucs européens, moi je vous parle des nouvelles.
Quel match ?
Stormers, stade vide, Bulls, stade vide. Je suis désolé, c'est
toi qui as voulu les provinces sud-africaines.
C'est toi qui as voulu ça avec ton ami Bernard Laporte. Moi j'étais là, je me suis insurgé, j'ai hurlé au scandale.
Non, on est tous d'accord que c'est moyenasse les Sudaf en Coupe d'Europe. Maintenant c'est fait, mais on était tous d'accord sur le fait que c'est voilà, ça dénaturait la Coupe d'Europe. Mais ça va augmenter le niveau quand même, se taper les Bulls, les Sharks.
Non mais le Qatar, c'est qu'après c'est les huitièmes de finale, non, c'est ça, ou quart?
Oui, huitième.
Huitième, les stades seront pleins, Pierrot. Donc je veux dire, c'est là où la compétition va réellement démarrer. Alors il y a la frustration effectivement de cette première phase qui est illisible, je suis d'accord avec toi, je peux être que d'accord avec toi, mais après, tu verras au moment des huitièmes, tu vas dire, ah ben ça y est, on se régale. Voilà.
La Rochelle peut garder son titre ?
Non.
Non, tu dis non, trop.
Je pense que ça va être très compliqué pour la Rochelle.
Ils sont irréguliers dans les matchs, les Rochelais.
Ouais, d'après.
Dans un même match, je parle, hein, souvent.
Oui, je trouve qu'il y a un petit manque de densité par rapport à l'année dernière et peut-être d'ambition parce que c'était un rêve de décrocher un premier titre, c'était un titre européen. J'ai le sentiment, peut-être que je me gourre.
Il n'y a pas de mesure.
Et puis qu'ils vont tout mettre sur le top 14. J'ai ce sentiment-là. La bataille va être rude pour accrocher les phases finales en top 14 parce qu'ils sont
pas
si bien placés.
Pire, hein. Ils disent que la Coupe d'Europe, ils l'ont montré, ils ont gagné deux fois, ils sont en tête avec Toulouse de la poule B. Parce que les clubs français, Montpellier est 6e de cette même poule, sinon personne n'est dans les 8 qualifiés. Est-ce que Toulouse et La Rochelle sont les deux seules chances françaises en Coupe d'Europe ?
Bah, il y a qui derrière ? Je vois pas.
Bah, c'est ce que je te dis, il y a Montpellier qui est 6e dans cette poule, mais sinon ils sont même pas dans les 8. Bordeaux, Lyon.
Ils ont quand même plus à perdre en jouant la Coupe d'Europe. Par contre, il y a gagné en fait. Le Racing, je pense que oui, ils ont peut-être une chance.
Ils ont perdu deux matchs. Ils ont perdu deux matchs au Racing en poule. Donc, est-ce que Toulouse et La Rochelle, vous pensez, sont les. Pour lutter avec ces gros clubs ? Je vous ai parlé de Saracens, Leicester, Exeter.
Moi, je pense que le Toulouse a un plus gros effectif pour disputer les deux tableaux. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, l'année dernière, tu me diras, La Rochelle a fait. Un titre, mais bon, alors, pourquoi pas, mais c'est compliqué de...
On n'a pas de réponse, voilà,
je pense que c'est très compliqué de doubler, surtout dans une compétition qui est si relevée, avec des huitièmes, des quarts, demi-finales, avec un top 14 à côté, c'est... Je pense que pour une équipe française, c'est très complexe.
Ouais, gagner 4 matchs de haut niveau et se peler les phases finales, enfin, être à la lutte pour les phases finales du top 14, qui est très dense et plus dense que les autres championnats, bah ouais, c'est très compliqué, t'as raison, c'est plus dur.
Vous y laissez des plumes, hein, si vous allez faire un 8e avec Exeter, un match...
Mais souviens-toi Toulouse l'année dernière, Toulouse, le match qui les épuise.
Ulster ?
Non, l'Ulster, oui, je ne me souviens plus lequel, mais bon, il y a un match...
Oui, ils font un aller-retour contre l'Ulster, et ils vont jouer les prolongations et les tirs au but au Munster.
Au Munster, oui, ce match, il crève pour la fin de saison.
Et donc après, ils arrivent rincés, ils prennent 40 points contre l'Ulster en demi-finale. Bon, on verra ça. On rappelle, 8e de finale le 1er avril, quart de finale dans la foulée le 8 avril, demi-finale le 29 avril et la finale donc à Dublin le 20 mai. En plus, c'est à Dublin. Hein. Donc voilà, pour le Leinster, ça peut être un avantage. Denis, un souhait en 2023. France champion du monde.
Bah oui, bien sûr. Bah, on attend tous ça, l'avènement enfin d'une équipe de française qui devient championne du monde. Et puis sur son sol, ça serait génial. Voilà,
je pense. Est-ce que vous mettez un billet d'ores et déjà?
Oui, alors oui, avec des
bémols. Non, il n'y a pas de oui, mais t'es pas dans les grandes gueules du sport là.
Non, mais je répète, j'ai toujours dit, donc je vais aller au bout de mon raisonnement. Ouais. J'ai dit qu'il faudra avoir toutes les
planètes alignées.
Pas les planètes, les joueurs.
Ah,
les
joueurs sans blessure.
Sans blessure qui soient là. Je pense qu'on aura plus de difficultés à gagner sans Dupont qu'avec. Voilà, c'est tout ce que je pense. Mais je ne veux pas parler de dépendance Dupont, mais en même temps, si tu es champion du monde, il faut avoir les meilleurs joueurs.
Bah oui. Voilà.
Eh bien, on l'espère, hein. Évidemment. 28 octobre, rendez-vous pour cette finale. Ça va passer vite, les gars.
Ça va aller vite.
On est en 2023, on en parlait déjà depuis un moment. Est en 2023.
Et on rend hommage à notre Jeff Paturo national, puisque lui, il ne sera pas là avec nous, malheureusement, puisqu'il nous a quittés.
Il est chez l'ennemi.
C'est
on l'embrasse quand même, on lui souhaite une bonne année aussi, Judas.
Bonne année.
Merci, Denis.
Merci à la semaine
Pierre.
Prochaine.
On remercie Sébastien la réalisation. On espère que vous, avez, vous auditeurs, que vous n'avez pas trop besoin d'un footing pour éliminer les toxines et le combo lipides-glucides. Que si c'est le cas, vous en chiez en ce moment en sport, eh bien vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on peut avoir un combo lipides-glucides et c'est pas grave aussi. Hein, okay
oui, ne vous donne pas de prénom, c'est très vexant.
Non, je me mets dedans là.
D'accord.
N'oubliez pas de vous abonner à votre podcast préféré sur les plateformes. Encore une fois, très très bonne année à vous toutes et à vous tous. Et puis entre les poteaux, évidemment, c'est dès la semaine prochaine, on vous embrasse. À la semaine prochaine, ciao.